Bonjour et bienvenue à tous. L'association Profil est heureuse de vous présenter sur l'antenne Fréquence Protestante son émission mensuelle sur le cinéma, Chant contre Chant. Émission qui sera présentée par moi-même, Jean Lot, et j'aurai à côté de moi Marie-Jeanne Campana. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour tout le monde.
Françoise Lot, bonjour. Bonjour Françoise.
Bonjour à tous.
Et Jacques Champeau, bonjour Jacques.
Bonjour.
Alors en ce début d'automne, bien sûr, l'affluent des films de Cannes n'est pas encore tari, mais déjà se présente l'important flux des films présentés à la Mostra de Venise. Alors c'est un petit peu au confluent de ces deux importants courants de cinéma que nous trouvons aujourd'hui, et notre programme s'en ressent. Venant de Cannes, nous aurons ainsi le plaisir de vous présenter Atlantique, le premier long-métrage de la cinéaste française d'origine sénégalaise Mati Diop, et Papicha, qui est là encore la première réalisation d'une femme. Celle-ci est franco-algérienne, elle s'appelle Mounia Medour, et son film a été présenté à la section Un certain regard à Cannes. Enfin, venant de Venise, nous allons vous parler de Joker, le film de Todd Phillips, qui a reçu cette année le Lion d'Or. Récompense qui, pour une fois, n'a pas été contestée, ce qui est rare. Et ensuite, comme d'habitude, nous vous parlerons de quatre films qui ont retenu notre attention ce mois-ci. Alors, nous allons commencer avec Atlantique, donc premier film de la cinéaste sénégalaise Mati Diop, qui a reçu le Grand Prix au Festival de Cannes 2009. Mati Diop a de qui tenir, elle est la nièce du grand cinéaste sénégalais Djibril Diop Mambéty. Alors, bon sang ne saurait mentir, on le verra lors du débat. Pour l'instant, disons quelques mots de ce dont il s'agit. Cela se passe dans une banlieue de Dakar. Des ouvriers travaillant à la construction d'une tour futuriste ne sont pas payés depuis 3 mois. Et plutôt que de continuer à attendre vainement leur salaire, décident de partir vers l'Espagne en prenant la mer, laissant derrière eux leurs épouses, leurs sœurs, leurs mères. Parmi eux, il y a Sulaiman, qu'un amour secret unit à la belle Ada, qui est elle-même promise à un mariage arrangé avec le riche Omar. Après le départ de Sulaiman, Ada ne cesse de l'attendre, de le chercher, certains témoignages affirmant l'ayant vu en ville. Dans le même temps, un jeune inspecteur est chargé d'une enquête sur de mystérieux incendies qui ont éclaté en ville. Alors, qui va parler de ce film, Marie-Jeanne ?
Oui, volontiers. Le film de Mati Diop est un film mystérieux, fantastique, politique aussi, et d'une grande beauté poétique. C'est une œuvre pleine d'originalité pour essentiellement 2 raisons. La première est qu'il traite de ce thème terrible de l'immigration, mais vu du côté de celles et ceux qui restent, point de vue qui n'est jamais abordé dans ce genre de film. L'Odyssée de Pénélope plutôt que celle d'Ulysse, dit la cinéaste. Mais il serait réducteur de le limiter à cet aspect, ce qui fait la seconde originalité du film et son côté fantastique. Les morts sont omniprésents, ils peuplent le quotidien des vivants et interviennent par des manifestations qui indiquent leur point de vue. En cela, le film est très africain. À la tombée de la nuit, les djinns peuplent les rues et les yeux de certaines femmes deviennent phosphorescents.
Différents thèmes, cela veut dire aussi différents genres cinématographiques.
Oui, car avec beaucoup d'habileté, Mati Diop a mélangé les genres cinématographiques. Le fantastique, par le retour des disparus, on l'a vu. Un film policier, par l'enquête sur un incendie inexpliqué. Cas de combustion spontanée, dit le policier. C'est également une immersion dans la société sénégalaise, avec les forces politiques, sociales, religieuses qui la contraignent, la description de la misère qui pousse les pauvres gens à l'exil, la corruption des secteurs privés comme publics, et le sort réservé aux femmes qui n'est guère enviable, le mariage arrangé qui devient socialement forcé pour ces jeunes filles qui n'ont guère le choix, le test gynécologique pour assurer le futur époux sur la virginité de sa promise, les conseils prodigués à la future épouse par les autres femmes de la famille. Tu dois cajoler ton mari, sinon il prendra une deuxième épouse avant même la naissance de ton premier enfant. Et jusqu'au marabout qui y met du sien, en affirmant que les démons prennent possession des jeunes filles par leur nombril quand elles ont le tort de les laisser visibles.
Et comment Mati Diop met-elle en scène le départ de Sulaiman ?
Alors là, c'est une autre habileté assez remarquable de la cinéaste, je dois dire, car le moment important du film, qui devrait être une scène essentielle, c'est-à-dire le départ de Sulaiman, qui est la cause du malheur d'Ada, eh bien, ce départ est traité par une ellipse, ce qui participe d'ailleurs à l'atmosphère de mystère.
Mystérieux aussi. Pourquoi ce titre, Atlantique ?
Eh bien, parce que l'océan Atlantique est un personnage du film à part entière, finalement, avec son calme dans lequel sombre un soleil rougeoyant qui est un appel pour ceux qui désirent un ailleurs. Un ailleurs, également l'océan, avec ses vagues furieuses qui laissent présager le pire pour ceux qui l'affrontent, avec des images là de toute beauté. C'est un film envoûtant et bouleversant.
Oui, Jacques, tu utiliserais ces termes envoûtant et bouleversant pour ce film.
Oui, assez volontiers. En fait, pour être honnête, je l'avais vu à Cannes, donc évidemment sans rien savoir sur le film. Et à l'époque, j'avais été un petit peu dérouté par le côté fantastique à l'africaine, avec ces esprits de défunts qui possèdent en fait des personnes. Et ce mélange de fantastique avec ce côté policier m'avait semblé rendre le film un petit peu compliqué à comprendre, en tout cas pour un occidental. Mais j'avais quand même été très... Alors, à la deuxième voyure, puisque je l'ai vu récemment, ce côté, évidemment... tombe tout à fait, et j'ai trouvé au contraire que ce film était d'une construction extraordinaire, à condition effectivement qu'on rentre dans ce jeu des esprits possédés. Moi, ce que j'ai énormément aimé dès la première voyure de ce film, c'est la qualité de la photographie, parce que on voit Dakar avec des images un peu surexposées, saturées de lumière, qui sont très très loin de l'Afrique, souvent filmée, je dirais, un peu en technicolore. Et parmi ces images, il y a effectivement, comme le disait Marie-Jeanne, ces vues de l'océan qu'on voit sans arrêt. Et d'ailleurs,
qui rythme le film.
Ouais. Et je crois que la première parole d'Ada à Souleymane, c'est mais tu ne me regardes pas, tu regardes l'océan. Et je dirais que c'est une ouverture qui est assez extraordinaire. Et au fond, cette histoire de possession, c'est peut-être quand même un symbole de la façon dont l'émigration, qu'elle soit d'ailleurs positive ou catastrophique comme ici, hante finalement les esprits des jeunes Africains. Oui. C'est un assez beau symbole, je trouve, finalement, à la réflexion.
Oui. Et toi, Françoise, à la réflexion, on ne disait pas la réflexion, parce que toi, tu ne l'as vu qu'une seule fois.
Hélas, moi, je ne l'ai vu qu'une fois, et je n'ai pas trouvé le film envoûtant, je ne l'ai pas trouvé non plus bouleversant. Je me suis vite désintéressée du film, à ma grande honte. À ma grande honte, je me suis perdue dans le film à partir de l'incendie, du lit nuptial. Et je me suis beaucoup ennuyée jusqu'à la fin du film, que j'ai quand même regardé jusqu'à la fin. J'ai trouvé le scénario chaotique, alors est-ce très personnel, j'ai trouvé opaque, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil en me disant, mais tout s'en mêle, où suis-je ? L'intrigue policière ne m'a pas intéressée parce que j'ai sans doute pas compris de quoi il retournait. Le discours social sur l'immigration était très mince, à savoir les pauvres sont amenés à quitter leur pays et traverser la mer et c'est très dangereux. Et puis le love story ne m'a pas non plus beaucoup intéressée. Je suis vraiment désolée, hein, mais je n'ai pas ressenti le bonheur que vous avez eu, vous, à voir ce film.
Oui, mais il faut avoir les clés de l'Afrique pour entrer dans ce film, enfin, je pense.
Bon, pas forcément, moi je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique.
Oui, mais il faut comprendre quelle est...
Mais c'est vrai que cette histoire de possession des esprits, ces formes de djinn, qui est absolument fondamentale pour la deuxième partie, moi j'ai trouvé finalement assez intéressant ce mélange de films à la fois réalistes, ouais, et sociales, et un peu fantastiques. Mais je comprends que ça puisse dérouter le spectateur, quoi.
Oui, moi j'étais assez dérouté par le film, non pas tellement parce que c'est ce mélange, c'est que je trouve qu'elle réussit très mal à faire passer ces différents genres à l'intérieur de son propos. Il y a un film réaliste, il y a un film de genre, il y a un film fantastique, il y a un film magique, il y a un film poétique, et pour moi ça fait comme un peu trop de fils qui s'entremêlent.
Voilà. Et ça t'a gêné, ça,
Oui, ça m'a beaucoup gêné, à la compréhension du film. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'on change souvent pratiquement presque d'histoire, et on s'en rend mal compte, et je trouve que souvent c'est très mal construit, en particulier l'histoire du policier. Je trouve que le policier, l'intrigue policière est quand même un peu naïve, et on n'y croit pas. Quoi.
Puis il s'étire en longueur, c'est infini.
Ah ben, sauf qu'en fait, cette intrigue policière est complètement intégrée dans cet aspect de possession des esprits, etc.
Mais oui.
Et qu'elle débouche en fait sur un futur sans doute pour Ada. Donc c'est assez construit, mais c'est peut-être construit de manière trop complexe quand on le voit comme ça.
Absolument, rien n'y comprendre. Oui. Ne rien y comprendre mais et non, se mais dire, mais attends, je vais sortir. Quoi.
Il faut comprendre que le policier est habité par le fantôme de Suleyman.
Qui le comprend? Tu vois, il y a plein de gens qui...
Si, moi, je l'avais compris à Cannes, quand même.
Si, elle le fait comprendre.
Hier, on en a parlé en réunion et la plupart des gens n'avaient pas compris.
Je crois qu'il faut le film avoir plusieurs fois.
Et dépend, même si on comprend ça, si tu veux, pour moi, ça n'enlève pas la faiblesse principale du film. À côté de choses que j'aime beaucoup, hein, mais ça n'enlève pas ce fait que je trouve que c'est très, très, très mal construit et finalement très mal filmé. Parce que je trouve, par exemple, tout le début, cette interminable séquence du début dans les chantiers de Dakar, dans le camion, etc., ça, je trouve que ça n'en finit pas et je trouve que là aussi,
c'est une question ressentie différente parce que moi, j'ai trouvé au contraire que c'était une entrée dans l'Afrique qu'on ne voit pas souvent.
Bien sûr.
Et qui était intéressante pour ça.
Surtout pour la construction de cette tour futuriste en Afrique.
Bien, je crois qu'on va passer maintenant au film suivant. On va maintenant parler de Papicha. Alors ça, c'est un film de la franco-algérienne Mounia Medour, qui a été formée au cinéma à la FEMIS et qui, avant ce long métrage, avait déjà réalisé plusieurs documentaires. Alors, Mounia Medour fait partie de cette génération de réalisateurs algériens qui ont connu ce qu'on appelait la décennie noire des années 90. Et c'est précisément dans ces années 90 que se déroule son film. Nejma, jeune étudiante, rêve de devenir styliste. Et à la nuit tombée, elle rejoint ses amis dans une boîte de nuit où elle vend ses créations aux papichas. Les papichas, ce sont de jeunes filles algéroises, drôles, belles, libérées. Mais la chape islamiste est en train de s'abattre sur l'Algérie et les papichas décident de se battre à leur façon pour la liberté. Opposant au noir des hijabs, le blanc du haïk, elles font de la lutte pour la mode une forme de la contestation. Bravant tous les interdits, Nejma organise un défilé de mode. Françoise, tu as vu ce film ?
Oui, j'ai vu ce film après en avoir entendu dire beaucoup, beaucoup de bien. Ce film, qui aborde en effet une période tragique de l'histoire des Algériens, met en image la montée irrésistible du salafisme au sein du monde musulman. Et nous étions bien loin de nous imaginer, à l'époque, il y a maintenant presque 30 ans, que cette idéologie autoritaire répandue par le FIS, par le GIA, puis par le très redoutable Al-Qaïda au Maghreb islamique, allait fondre sur l'ensemble des pays arabes, ainsi que sur toute l'Europe, avec les tragédies, hélas, que nous savons. La jeune réalisatrice, qui vivait encore en Algérie à la fin des années 90, rencontre dans son film du quotidien des jeunes filles, des étudiantes algéroises de l'époque. Et pour ces toutes jeunes femmes, la montée de l'intégrisme religieux était déjà palpable, et c'est ce qu'elle nous fait voir dans Papicha. Alors Nejma et Vassila, étudiantes, voient les murs de leur faculté se couvrir d'affichettes sinistres, ordonnant aux filles de porter le hijab, voile de la musulmane. Un voile noir, venu tout droit d'Arabie Saoudite, et qu'elle refuse de porter. Dans une autre séquence, nous voyons le cours de français interrompu sauvagement par une horde de filles en noir, hurlant « maudit soit ceux qui parlent une langue étrangère. Notre langue est l'arabe. » On en a froid dans le dos. La bonne idée du scénario, c'est d'imaginer que Nejma, étudiante en français, se passionne pour la mode, dessine des robes plus saillantes les unes que les autres, achète des tissus soyeux aux couleurs vives, des perles, des paillettes, pour réaliser son rêve, monter un défilé de mode avec ses amis à la cité universitaire. Mais voilà, on l'avait deviné, cela ne se passera pas tout à fait ainsi. Et c'est peut-être là, pour moi en tout cas, un bémol à apporter à Papicha. Même si je sais gré à la réalisatrice d'avoir pris le parti de l'optimisme et de nous avoir épargné un film victimaire.
Tu parles de bémol, à quel endroit ?
Je dirais même deux bémols d'ailleurs. Le premier, c'est à l'endroit de la crédibilité de cette histoire. Moi, je n'ai pas pu croire un instant à la rapide, trop rapide métamorphose des personnages. Celle de Samira, la jeune fille religieuse et voilée de la cité universitaire. Celle du gardien de la cité universitaire. Celle des gentils garçons rencontrés lors d'une soirée en boîte. Celle du vendeur de tissus. Bref. La séquence de l'attentat salafiste, en particulier, ne tient vraiment pas la route dans sa réalisation, hein, pas en tant que fait, mais dans sa réalisation, que j'ai trouvée incroyablement théâtralisée et prévisible. Il y a trop de moments attendus, on avait deviné, on avait déjà vu. Et un autre bémol, c'est la qualité de l'image. Tourner caméra à l'épaule, ce n'est pas seulement un choix, ça devrait être aussi une compétence. Et les images qui sont bousculées, virevoltantes, tout au long du film, m'ont carrément donné le vertige. À la fin, je me cramponnais dans mon fauteuil, j'ai trouvé que c'était insupportable.
Oui, je vois qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas tellement supportées. Marie-Jeanne, je crois que toi, par contre, tu n'as pas eu de bémol.
Deux bémols, j'ai dit. C'est
deux bémols et demi, dirons.
Deux petits bémols. Bon, parce que pour moi, ce film est un véritable coup de poing. J'ai beaucoup aimé. C'est un hymne énergique à la liberté, au courage, à la résistance. C'est un film vraiment éminemment politique. Et un film surtout indispensable parce qu'il ne nous parle pas du passé. Et il est un message adressé aux jeunes d'Algérie et d'ailleurs pour résister à cet obscurantisme que veulent imposer les salafistes, comme tu dis. D'ailleurs, à l'heure actuelle, en Algérie, il n'est pas encore sorti. Les sorties ont été ont été interdites. Donc, on peut penser que ça gêne beaucoup l'Algérie d'aujourd'hui.
Les pouvoirs politiques ont toujours été très bêtes.
Oui, mais je trouve que ces filles sont merveilleuses. Elles ont la fureur de vie. Cette vitalité, elles sont charmantes, elles sont chaleureuses, elles sont sensuelles, elles ont les goûts et les aspirations de toutes nos jeunes filles.
Mais ça, on est d'accord.
D'aujourd'hui, oui, mais elles l'expriment dans un contexte quand même terrifiant pour elles. Et elles ont la peur au ventre, mais elles bravent cette peur, notamment quand on leur dit couvre-toi, sinon c'est un linceul qui te couvrira. Quand on les aborde dans la rue comme ça, et malgré tout, elles sortent toujours habillées à l'occidentale et avec des jupes très courtes et maquillées, etc. Donc, non, je trouve que c'est un film bouleversant, puissant et qui a été porté aussi par des actrices exceptionnelles. Voilà.
Oui, Jacques, tu partages l'enthousiasme de Marie-Jeanne ou les bémols
écoute,
plutôt
l'enthousiasme, parce que moi, c'est un film que j'ai vraiment bien aimé. Parce que, d'abord, il est paradoxal, il est plein de vie, alors que c'est une des périodes les plus noires de l'histoire algérienne. Et cette façon de filmer, qu'on peut peut-être trouver un peu effectivement chaotique, pour moi, elle est cohérente avec la rage de vivre de l'héroïne. Elle se bat, elle réagit. Oui. Et puis alors, j'ai trouvé génial cette idée de faire d'un défilé de mode un symbole de résistance. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus futile qu'un défilé de mode. Et ça devient un symbole de résistance, d'autant plus qu'en fait, pourquoi ils se battent justement contre ces espèces de tenues noires qui veulent les enfermer. Et y compris d'ailleurs, tu disais que tu n'avais pas trouvé très crédible le retournement des petits amis. Eh bien oui, malheureusement, c'est ça. Même les petits amis, ils sont en train de tourner du mauvais côté et puis de se dire qu'après tout, c'est pas mal de reprendre en main ces petites femmes. Donc non, moi j'ai trouvé que ce film était effectivement très tonique, peut-être trop tonique, mais non, très tonique. Oui. Et j'ai bien aimé, quoi.
Je trouvais que ce film, c'est un film d'un angélisme insupportable. Je pense par exemple, il y a eu des tas de films qui ont été faits sur les années 90 par les Algériens. Je pense au Repenti du massacre à Louache, je pense au Jour d'avant, En attendant les hirondelles de Karim Massoui, je pense au Bienheureux de ce genre. Bon, ce sont des films profondément, mais qui montrent une façon d'être profondément marqué. Tandis que là, non, on a l'impression que c'est presque joyeux.
Et puis, je trouve il y a des éléments très graves quand même dans ce film.
Je trouve que la façon dont
il y a des scènes de terreur.
La façon dont les islamistes, par exemple, sont montrés, je pense à cette scène où il y a un commando qui arrive et qui balance des rafales de Kalachnikov dans le dortoir de l'université. Et finalement, il y a pas un blé. Quand on pense aux images du Bataclan, quand on voit ce qu'on veut après, elle a une petite blessure à la lèvre, la pauvre, c'est tout.
Je suis d'accord avec toi que cette partie-là est un tout petit peu irréaliste.
Il y a beaucoup d'ellipses.
Mais oui, mais
c'est théâtralisé.
Mais c'est théâtralisé, pourquoi pas, hein, le film, le cinéma,
pourquoi pas y montrer de l'hémoglobine?
Que tous les éléments qui étaient montrés, les os se comportent exactement comme on les attend. Cette façon de baisser leur froc systématique. Moi, je dirais que c'est un film anti-mal, assez étonnant, éminemment féministe.
C'est très bien.
Non, attends, il y a des femmes qui sont des folles de Dieu,
les femmes en noir.
Les femmes en noir,
c'est épouvantable. Non, mais le film manque de complexité quand même. J'ai l'impression que c'est quand même une jolie histoire. C'est une jolie histoire.
L'Atlantique était trop complexe, celui-là est trop simple.
Ça manque de nuance peut-être, on pourrait dire. Ça manque un peu de nuance, mais...
C'est un film, c'est un film un peu coup de poing, comme le disait Marie-Jeanne, et ben, après tout, il en faut.
Qui, bon, je dois dire, effectivement, est quand même salué par le public, puisque en Angoulême, il a reçu le prix du public, et puis
trois prix.
C'est normal ce film ait du succès, c'est normal.
Et c'est même très bien.
Mais, oui,
allez-y.
Il faut trouver quand même quelques faiblesses quand on en discute. On n'est pas obligé de l'être que dans le concert de Louange.
Pour moi, c'est plus que des faiblesses. Pour moi, ce film.
Mais il ne faut pas décourager les auditeurs d'aller le voir. Il faut le voir.
Nous allons reprendre notre émission sur Fréquence Protestante en parlant de Joker. Alors, on attendait Batman, dont on devait fêter cette année les 80 ans, et ce fut Joker qui arriva, mais tout seul, dans ce film de Todd Phillips, couronné du Lion d'Or à Venise et entièrement consacré aux origines du célèbre clown Prince du Crime. Parmi les nombreux avatars de ce personnage, on se souvient bien sûr de Jack Nicholson et de Heath Ledger. Cette fois, c'est Joaquin Phoenix qui campe, et de quelle manière, le monstre, avant qu'il ne le devienne, et décrit son trajet jusqu'à le devenir. Il n'est au départ qu'un jeune homme contrefait physiquement comme mentalement. Il s'appelle Arthur Fleck. Il est atteint d'une maladie psychique qui le fait éclater sporadiquement d'un rire inextinguible. Objet d'une hostilité à peu près générale, il vit avec sa mère, travaille comme pathétique clown publicitaire et rêve de devenir humoriste à l'image de son idole, Murray Franklin, qu'il finira par rencontrer, celui-ci ayant été séduit par le degré zéro de l'humour d'Arthur. Ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Mais il s'en passe des choses avant cette goutte. Jacques ?
Ah oui, il s'en passe effectivement beaucoup de choses. Mais c'est un film qui risque de déconcerter les amateurs d'aventures de super-héros. Alors, bien sûr, donner un beau rôle au méchant n'est pas nouveau au cinéma. Hitchcock disait déjà « plus réussi est le méchant, plus réussi est le film ». Et d'ailleurs, dans Batman, le personnage trop lisse de Batman est en général très ennuyeux par rapport aux différents avatars de ses ennemis. Et tu citais d'ailleurs à juste titre la performance de Jack Nicholson dans le rôle de Joker du Batman de Tim Burton. Mais ici, Todd Phillips... qui était jusqu'ici surtout connu pour ses comédies un peu déjantées et un peu lourdes comme Starsky and Hutch ou la trilogie des Very Bad Trip, va en fait beaucoup plus loin parce qu'il déconstruit complètement le mythe de Batman dont il ne reste qu'un petit garçon bien élevé qui assiste à l'assassinat de ses parents. Et tout se concentre sur Arthur et sur la façon dont celui-ci devient Joker, poussé vers le crime par une société qu'il rejette.
Mais cette société n'est pas un exercice de science-fiction. Elle est située dans le temps et l'espace.
Oui, et c'est là que Todd Phillips, même s'il a fait disparaître Batman, est en un sens fidèle à la lettre et à l'esprit de la bande dessinée. Il situe cette société en pleine crise à Gotham City, alors dans la BD c'est un alias de New York, dans les années 70-80, à New York qui rappelle d'ailleurs furieusement celui de Taxi Driver, le film de Martin Scorsese. Les ordures s'entassent dans les ruelles sombres, les rats envahissent la ville... Et il suffit d'une étincelle, d'une parole un peu déplacée d'un homme politique, le richissime père justement du futur Batman, pour mettre dans la rue des milliers de manifestants grimés en clown, ce qui est pour moi une géniale trouvaille de mise en scène de Todd Phillips qui reprend l'idée de la ville en insurrection de la BD, mais en la pervertissant complètement car le spectateur prend parti pour les émeutiers.
Et au milieu de cette société en décomposition, le pauvre Arthur est la risée de tout le monde.
Arthur, comme tu l'as dit, est un personnage névrosé, dont les tics et notamment son rire incontrôlable lorsque l'émotion le submerge, en font la risée de tous ceux qu'il croise. C'est un fils aimant d'une mère elle-même paranoïaque, et il se trouve confronté à la violence de tous, dans son boulot minable d'homme sandwich, dans la rue, dans le métro. Il veut être un artiste, mais ses performances de stand-up sont pitoyables. Et finalement, en se défendant d'une agression dans le métro, il va basculer dans le crime et y trouver, un peu à sa surprise, un nouvel équilibre et un certain plaisir. Alors, la prestation de Joaquin Phoenix, maigri de 25 kilos pour ce rôle, est absolument époustouflante. Je trouve qu'il est le digne successeur de Robert De Niro de Taxi Driver ou du Jack Nicholson de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il campe un personnage de fou absolument inoubliable. Et présent, il est présent de la première à la dernière minute du film, et pour moi, il crève l'écran.
Françoise, est-ce que toi aussi tu étais convaincue par la trajectoire de ce Joker et par son basculement dans la folie et le crime?
En tout cas, je partage tout à fait ce qu'a dit Jacques en disant que la perfection de Joaquin Phoenix est extraordinaire. Il faut se précipiter pour voir le film rien que pour ça, c'est bluffant. Ce rire, en tout cas, qui est tellement dérangeant et qui sonne parfois comme un sanglot, c'est bouleversant. Et puis l'évolution, depuis le clown triste qu'on voit au début du film, puis à la fin on le voit danser, il s'élève, il devient souple, enfin c'est magnifique ce qu'il fait, mais c'est magnifique. Par contre, ce qui m'a dérangé, c'est la façon, mais maintenant c'est un choix du réalisateur, hein, c'est la façon dont il a abordé le problème du mal incarné par le Joker. J'ai eu le sentiment qu'il voulait expliquer pourquoi le Joker était devenu l'incarnation du mal en énumérant tous les malheurs, tous les drames qui se sont additionnés sur son dos. C'est un enfant abandonné ou un enfant adopté, c'est un malade mental, c'est un loser en quelque sorte, il est viré de son travail. En fin de compte, on additionne toutes ces souffrances qu'il a, et on se dit que c'est parce qu'il a été comme ça malheureux, qu'il est rejeté par la société, comme tu le dis Jacques, qu'il a été poussé vers le crime. Moi, ça m'a fait penser un peu à la sorcière du Kirikou, qui s'appelle Karaba, et on explique à la fin de l'album que sa méchanceté, elle est due à une épine que les hommes leur enfoncent dans le dos et qui lui fait horriblement mal, atrocement mal, et que c'est pour ça qu'elle est devenue méchante. Mais si on retire l'épine, elle sera à nouveau gentille. J'exagère un peu. Mais j'ai pas aimé cette façon de rationaliser le mal, alors que j'attendais quelque chose sur l'absurdité du mal. Voilà.
Mais oui, moi aussi, c'est un petit peu quelque chose. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce film. Hein. Le petit bémol que je mets, c'est effectivement un petit peu la même remarque que Françoise. Le reproche que le mal soit présenté comme une conséquence de quelque chose et non pas existant par lui-même. Je trouve que finalement, dans cette façon, c'est un peu rousseauiste, je trouve. Façon de dire que l'homme en lui-même serait bon, mais c'est la nature qui le pervertit. Alors que pour moi, voilà, c'est
pas
ça
la nature, non, ce qui lui arrive, tous les malheurs qui lui arrivent.
L'homme en nature est bon, mais c'est la société qui le pervertit.
Oui, mais alors, je trouve cette réflexion quand même très intéressante, parce que si on prend les blockbusters classiques américains, toutes les séries des Batman, des Superman, etc., on est alors typiquement dans un système où il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre. Là, on ne s'interroge pas sur ce qui...
Sur l'origine
des causes
du mal.
On a, et c'est parfaitement manichéen, le bien qui triomphe du mal. Et il serait quand même intéressant de se poser la question, pourquoi ce schéma qui a travaillé pendant des dizaines d'années et qui continue à travailler se retrouve mis en question par un certain nombre de réalisateurs américains, que ce soit d'ailleurs dans La Guerre des Étoiles, où on vous montre comment Dark Vador est devenu Dark Vador, ou comme on vous montre comme ça dans Joker, comment Joker ou Arthur est devenu Joker. Parce que effectivement, le schéma manichéen, le bien et le mal, et puis le mal et le mal, point, c'est le schéma vraiment traditionnel de ce genre de film. Et là, il est complètement, je dirais, un peu retourné, puisqu'au fond, on ne s'intéresse qu'à ce pauvre Joker qui va devenir le mal. Donc moi, je trouve quand même que sur le plan... Alors, on peut dire, bon, c'est un peu facile, etc. Mais d'un autre côté, c'est quand même intéressant de se poser la question pourquoi ce cinéma américain est en train, justement, de changer par rapport à un système beaucoup plus simple. Allez, il y a les bons et les méchants.
C'est une question intéressante. Enfin, mais qu'est-ce qui n'évacue pas le fait que... Là, effectivement, pourquoi a-t-on besoin de justifier le mal comme si le mal n'existait pas pour lui dans la nature?
Non mais le mal existe, mais on peut quand même se poser la question comment on arrive au mal. C'est pas quelque chose qui est comme ça défini par un beau diable qui décide que voilà, celui-là il est le mal et celui-là il est le bien. Ce qui est un peu dans le film caricatural de Superman.
Il y a notre approche du mal dans ce film d'ailleurs, c'est celui des manifestants qui pensent qu'ils sont... Enfin, c'est une révolte sociale qui ensuite débouche sur la violence la plus extrême.
Qui débouche sur une violence...
Et là, par contre, on a effectivement un déclencheur du mal, mais ce déclencheur du mal est sans rapport avec l'origine.
Oui, alors, mais là aussi, c'est intéressant par rapport au schéma traditionnel de Batman, parce qu'en général, l'émeute, elle est au début du film, parce que Batman va mettre de l'ordre dans tout ça. Alors que là, le paradoxe de l'histoire, c'est qu'en fait, l'émeute, elle arrive à la fin. Et le travail fait par le réalisateur sur justement, je dirais, la mise en perspective de cette société, fait que le spectateur se trouve plutôt enclin à être du côté, j'allais dire des gilets jaunes, du côté en tout cas des émeutiers. En plus, avec ce côté relativement sympathique qui sont tous grimés en clown. Donc il y a un effet assez compliqué, je trouve. Et puis, on peut effectivement ne pas aimer ce postulat de départ, mais j'ai trouvé que si on l'admet, le film est d'une cohérence et d'un scénario extraordinaire.
La manifestation des clowns, c'est un grand moment. C'est un magnifique. Grand moment.
Et puis, il y a beaucoup de moments qui sont des grands moments. Je pense à toutes les séances entre l'humoriste et Joker. C'est du grand cinéma.
C'est du grand cinéma. Ils se sont fait plaisir, ouais. Évidemment. Ouais. Avec Robert De Niro, mais je veux dire, c'est du grand cinéma.
Il y a énormément
d'ailleurs de références à Taxi Driver, ça sera intéressant de les analyser, mais on n'a pas le temps, mais c'est assez intéressant.
C'est dommage parce que c'est un film extrêmement intéressant. Bon, on va passer au coup de cœur, au choix. D'abord, toi Marie-Jeanne, je crois que tu avais choisi de présenter Ceux qui travaillent.
Absolument, c'est un premier film intelligent, fin originale et implacable sur le monde du travail que nous offre le jeune voix Antoine Rüschbach. Un film social également. Franck, magnifiquement interprété par Olivier Gourmet, est un personnage complexe. Il est parti de rien, né dans un milieu très modeste, et il a appris que seule la force et le travail pouvaient lui permettre d'avoir une vie meilleure. Il est introverti, taciturne, arrogant, très peu attentif aux autres, et il a tout sacrifié à ce travail, y compris sa famille, sans se poser la moindre question. Il est complice de cette course effrénée à la compétitivité dans une mondialisation où la circulation des marchandises est une source de profit vertigineuse. Et il s'est tellement identifié à ce travail qu'il a perdu son humanité, son âme, en prenant seul, sans trop y réfléchir, dans la peur de perdre une cargaison et les millions qui sont en jeu, une décision moralement et humainement absolument inadmissible. Il a fait le sale boulot, dont les dirigeants sont au fond très contents, mais qu'ils prennent comme prétexte, dans une moralité de façade, pour lui demander sa démission, car il est trop cher à licencier. Le cynisme, la moralité, l'inhumanité sont les vertus cardinales de ce milieu pour lequel la vie d'un migrant ou d'un salarié ne pèse pas lourd face au risque d'une perte financière. Milieu que dénonce d'ailleurs avec subtilité le réalisateur. Alors doit-on plaindre Franck ? Il n'est pas victime du système qu'il a broyé parce qu'il en a été un rouage très ailé. Mais le réalisateur nous laisse libres devant ce personnage ambivalent car il se garde de le juger. Il nous le présente au contraire comme un humain avec ses failles et ses faiblesses. La fin n'est toutefois pas très optimiste, car amputé de sa raison de vivre, Franck n'a d'autre choix que mourir ou accepter un autre job tout aussi contestable que le précédent, et pour lequel d'ailleurs il se vend. Donc c'est un film qui est très fort et à voir à mon avis.
Oui, enfin, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette façon d'opposer la morale des responsables des entreprises à celle de l'individu. Comme s'il y avait deux éthiques différentes selon qu'on est dans une société ou en tant qu'individu. Et c'est une noirceur assez impressionnante.
Ah oui, tout à fait.
Autre choix, Chambre 212.
Ça sera moins noir. Le film de Christophe Odoré, qui était présenté à Cannes dans la sélection Un certain regard, est une comédie légère et sentimentale qui tranche avec le film dont on vient de parler ou avec tous les films qui étaient présents à Cannes et qui parlaient des horreurs de notre monde. Donc 20 ans de mariage ont affadi la passion entre Richard et Maria et cette dernière enchaîne les aventures avec ses élèves étudiants, parce qu'elle est prof. Prof de droit d'ailleurs. Après une dispute avec son mari, elle le quitte pour passer la nuit dans l'hôtel en face et réfléchir à l'avenir de leur couple. L'histoire est très banale, mais elle est traitée avec une très grande fantaisie, car après un début réaliste, le film plonge dans un univers onirique qui échappe à toute logique. Maria voit de sa chambre son mari bedonnant, abattu par son départ soudain, et ses réflexions sont traduites en images par l'irruption de nombreux personnages qui surgissent du passé, et parmi eux son mari 25 ans plus jeune. On peut penser à certaines comédies de Shakespeare ou au Woody Allen de Minuit à Paris. Le passé et le présent se télescopent à 25 ans d'intervalle, convoquant les rêves de jeunesse et la réalité de l'âge mûr, ce que l'on voulait être et ce que l'on a été. Alors, il ne faut surtout pas essayer de chercher une explication rationnelle à cette succession de scènes où le cocasse le dispute à la nostalgie, mais plutôt se laisser porter par le rythme du film, que je considère personnellement comme digne des certaines comédies de Fedot, et c'est un compliment pour moi. On découvre ainsi les amants successifs de Maria, ils sont nombreux, mais aussi sa mère qui lui fait la morale, un sosie d'Aznavour en vieux philosophe, et enfin la professeure de piano de Richard, dont il était amoureux quand il avait 15 ans. L'exercice est brillant, on peut le juger un peu artificiel, mais on peut aussi lui trouver un charme certain, d'autant que les acteurs emmenés par une Chiara Mastroianni survoltée, elle a eu d'ailleurs le prix d'interprétation d'un certain regard pour ça, sont excellents. Et ajoutons que l'appartement du couple se situe au-dessus du cinéma Les Sept Parnassiens, au lieu de la cinéphilie parisienne, et que le bar dans lequel ils finissent la nuit se nomme Rosebud. Tout un programme.
Tout un programme. Françoise, toi, tu as choisi Pour Sama.
Oui, alors, changement de registre. Pour Sama, attention, c'est un film documentaire saisissant, inoubliable, poignant. Tourné sous les bombes à Alep entre 2012 et 2016 par la jeune Wad Al-Khattab, mère d'un bébé, la fameuse petite Sama. Wad a été témoin du soulèvement d'Alep en 2013. Elle se fait reporter photographe et se donne pour mission de rendre compte de la résistance de toute une population dite « rebelle » et donc promise à une mort programmée par Bachar el-Assad. Wad refuse de quitter Alep. Son mari, le docteur Hamza, et quelques amis déterminés tentent jour et nuit d'arracher à la mort les blessés déchiquetés par les bombes qui déferlent dans leur hôpital de fortune. Les images sont dures, voire insoutenables. Wad nous montre ce que nous ne voulons pas voir, à savoir la mort. Les blessures abominables de tous ces hommes, ces femmes, ces enfants sanguinolents, quelques instants à peine après le lâcher d'une bombe. Et tous ces corps, brusquement, sans vie. Wad a fait de ce film une lettre à sa fille, la minuscule petite Sama née sous les bombes, et qui ne réagit même pas au bruit terrifiant des attaques aériennes, comme si ce monde était là, pour elle, un monde tout à fait normal. Et Wad interroge l'enfant, avons-nous eu raison, ton père et moi, de te faire naître à cet endroit? Est-ce que notre engagement de résistant est acceptable pour toi? Wad tient à tout prix à célébrer la vie plus forte que la haine, la vie qui défie la volonté d'extermination de ce dictateur fou, épaulé par ses amis russes. Alors Wad filme aussi son mariage avec Ramza, elle filme la naissance de leur bébé. Elle filme les enfants de l'école qui sont réfugiés dans un sous-sol sans lumière et qui chantent à tue-tête avec leur institutrice. Et les autres enfants qui jouent dehors, en riant, dans un car calciné par les bombes. La chute d'Alep, on le sait, sera inéluctable, il faut partir. Mais Wad, Hamza et la petite Sama seront les tout derniers à quitter Alep. Le visage figé par la douleur, il monte dans le dernier car pour nulle part. « Tout ce qu'on a fait était pour toi, Sama, murmure Wad, et s'il le fallait, je referais exactement la même chose. » Allez voir le film.
Oui, apparemment, c'est un film incontournable. Et je vais maintenant parler de Baccarat, qui n'est pas beaucoup plus drôle, mais bien qu'il était en pleine fiction. Alors, il s'agit d'un film de Kléber Mendoza-Filho, dont on connaissait déjà les bruits de récifs et Aquarius. Cette fois, il s'est mis avec son chef décorateur, Juliano Dordeles, pour réaliser à quatre mains cette espèce d'ovni inclassable qu'est Baccarat. Inclassable, c'est le moins qu'on puisse dire, de ce film qui se passe dans un village introuvable sur la carte, qui se déroule d'ici quelques années, avertit le prologue, et qui tient à la fois du film de genre, du western, du document ethnographique, du film d'anticipation et du film d'horreur, plus grotesquement d'ailleurs surréaliste que réellement horrifiant. Cela commence déjà bizarrement avec un camion-citerne rempli d'eau et criblé de balles qui arrive dans le minuscule village du Baccarat, où toute la communauté se prépare à enterrer en musique la matriarche Carmelita dans une atmosphère à la Gabriel Garcia Marquez. Ensuite, les événements mystérieux vont se multiplier, l'endroit est coupé du monde, il n'y a plus de réseau, des drones en forme de soucoupes volantes survolent les lieux, de surprenants motards se pointent au milieu du village, des habitants sont sauvagement assassinés. Mais la vérité, peu à peu, se fait jour. Campé pas très loin du village, un groupe d'occidentaux, américains, européens, supérieurement armés et reliés à l'extérieur par des oreillettes radio, a choisi Baccarat comme terrain de chasse à l'homme. Face à ces tueurs, la résistance va s'organiser et la violence et l'horreur vont croissant. On peut voir dans ce film, bien sûr, une métaphore de la solution de la situation politique et économique du Brésil actuel, hein, ou de l'exploitation des pays en développement par les pays dominants. Au-delà de cette interprétation, Baccarat me paraît d'abord renvoyer l'image d'un monde envahi par l'absurde, où le chaos va croissant par disparition progressive du sens. à tel point que la violence extrême du film s'en trouve vidée de son contenu d'horreur, tant les projections de sang humain finissent par ne paraître que de simples taches de couleur. Que la victoire reste aux villageois laisse à penser que pour Kléber Bandossafilo, un bain d'espoir est toujours vivace. Vous vouliez réagir un peu
plus ? Oui, je trouve que ce film est une œuvre puissante, sauvage, et aussi une œuvre de résistance. Enfin, c'est pour, comme Papicha, pour la résistance. Il ne faut pas s'arrêter à l'excès de la description de ces tueurs qui sont caricaturaux et vraiment presque risibles. C'est le côté peut-être un tout petit peu faible du film, mais c'est un film magnifique, avec des images somptueuses, et surtout qui est un appel aux gens qui veulent, qui sont un peu séduits par les sirènes de l'extrême droite et qui amènent, qui nous dit les catastrophes qui s'annoncent dans ce cas-là, comme le Brésil actuel, malheureusement.
Bien, je crois qu'il est venu le temps de nous quitter sur Fréquence Protestante. Merci à Françoise, à Marie-Jeanne et à Jacques qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique. Et merci à tous ceux qui l'ont écouté. Et que nous invitons à nous rejoindre dans notre prochaine émission Chant contre Chant, qui aura lieu le mardi 26 novembre de 13h15 à 14h.